Alexandre Edez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes stratégiste au groupe Richelieu. On va parler avec vous du marché de l'art cette fois-ci. On parlera bien sûr de marché financier avec plaisir. Un marché de l'art hein, qui, avec les nouveaux outils numériques, est en train d'évoluer. On parle effectivement de ces nouveaux actifs. Vous avez étudié ce qui se passe sur ce marché de l'art. Alors, on verra s'il s'agit de bulles ou pas, mais comment vous l'avez analysé, vous, déjà, sur la partie technique sur ce qui s'est passé.
Alors déjà, on l'a analysé par rapport à l'engouement qu'il y a pour les crypto-monnaies, puisque les crypto-arts sont largement liés au phénomène de crypto-monnaie. Et c'est vrai que les fameux NFT, c'est-à-dire que des œuvres d'art qui sont numérisées, sont de plus en plus disponibles sur le marché. Et comme tout marché naissant, il y a à la fois des bulles, des spéculations. Et nous pensons, en tout cas dans notre étude, que ça reste quand même si une bulle est en train d'apparaître, une vraie révolution, que ce soit sur les thématiques artistiques appréhendées, mais aussi sur la propriété intellectuelle qui s'ensuit, parce que le sujet essentiel, notamment dans tout ce qui concerne le numérique, c'est bien la propriété intellectuelle qui posait débat, et savoir comment nous allions, en tout cas les acteurs, aller organiser cette propriété intellectuelle.
Oui, parce qu'on parle pour les non-spécialistes, mais on va en parler de plus en plus de ces NFT, effectivement, pour les transactions qui peuvent se faire sur un certain nombre d'actifs. Qu'est-ce qu'il y a derrière les NFT?
Derrière les NFT, en fait, c'est une numérisation qui est mise en place par des plateformes, et ces NFT peuvent s'échanger via les blockchains. Généralement, à 80%, c'est la blockchain Ethereum, pour effectivement acheter des arts, des produits artistiques, des œuvres d'art numériques, et ça s'échange un peu comme les crypto-monnaies. Vous les avez dans des wallets, hein, des portefeuilles comme Metamax par exemple, ou OpenSea, et là vous pouvez à la fois détenir des œuvres ou les échanger, les vendre et les acheter.
Alors justement, hein, alors il y a eu des ventes chez Christie's notamment que vous avez rappelé. J'ai pu aussi de mon côté voir que fondateur Twitter avait vendu son premier tweet par ce système-là. Donc on voit que ça touche à la fois beaucoup de secteurs et que c'est quelque chose, voilà, un phénomène qui a pris de l'ampleur en tout cas.
Alors, ça a pris de l'ampleur. C'est vrai que ça a été un marché de niche pendant très longtemps, hein. La première plateforme d'art numérique super rare, je crois qu'elle date de 2015-2016. Donc, c'est quand même une dynamique assez récente. Et d'une certaine manière, tout ce qui est rare et peut s'acheter est mis sur le marché sous forme de NFT, et on voit des spéculations. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est que aussi par rapport le monde artistique, c'est aussi évidemment d'autres acheteurs qui rentrent en ligne cette fois-ci. C'est aussi des acheteurs qui ont fait fortune dans les crypto-monnaies, parce que faudra penser que pour l'instant, la crypto-art reste un marché de niche qui est entièrement lié évidemment aux crypto-monnaies et à la blockchain, puisque ces NFT sont traités via les crypto-monnaies, hein, l'Ether, le Bitcoin, et sont après archivés dans ces fameuses blockchains. Donc c'est très intéressant parce qu'effectivement, par rapport à ce que l'on voit sur le marché de l'art, évidemment sur l'art classique, on va dire, on a aussi des spéculations sur tel ou tel artiste. Eh bien de la même manière, on l'a vu notamment avec Beeple, hein, qui a vendu son œuvre d'art près de presque 70 millions de dollars, hein, chez Christie's. Et donc, de la même manière, on commence à avoir des artistes émergents, hein, des artistes qui étaient reconnus parfois avant. Et ce qui est, à mon avis, le cas essentiel dans cette nouvelle, on va dire, cette nouvelle sphère artistique, c'est aussi souvent les thématiques qui sont mises en place, parce que souvent, c'est des thématiques qui sont anticonformistes par rapport à un marché qui est assez conservateur. Il n'y a pas que la technique employée pour créer l'œuvre d'art, il y a aussi les thématiques. On voit Beeple qui est assez symptomatique de la situation, et évidemment, la technologie, on a parlé des NFT pour l'émettre et surtout la valoriser.
Donc, quelque part, on reviendra sur les sujets effectivement de bulles ou pas, spéculation là-dessus, mais il y a le fait intéressant que cette technologie de la blockchain, hein, de certification en quelque sorte, effectivement de garantie sur ces œuvres, de savoir où elles sont, où elles se situent, elle s'est emparée de ce secteur-là et elle est en train, effectivement, peut-être pour certains artistes, peut-être, voilà, elle va donner des idées à d'autres pour aussi pour leurs prochaines œuvres, pourquoi pas.
Ça va révolutionner de toute manière aussi les artistes et leur manière de vendre leurs œuvres, parce que des plateformes comme SuperRare par exemple proposent aux artistes non seulement effectivement de mettre leurs œuvres sur leur site pour pouvoir les vendre, mais de telle manière permettre aussi une rémunération quand l'œuvre sera rééchangée dans le futur. C'est-à-dire que l'artiste pourra aussi avoir une rémunération, alors que dans le cas classique d'une œuvre d'art qui est vendue, si l'œuvre est vendue aux enchères quelques années plus tard à un prix important, finalement l'artiste ne touche plus rien, c'est le premier acquéreur qui va toucher. Et donc c'est en train aussi, un peu dans cet état d'esprit des crypto-monnaies, réseaux sociaux, etc., que sont mis en place ces NFT, et vraiment à la fois pour l'artiste, évidemment pour les acheteurs, mais aussi pour l'artiste, c'est aussi toute une frange émergente artistique qui est en train d'être mise en place. Je prends juste un exemple, c'est vrai que dans un article que l'on a publié, on a parlé d'un artiste français, P-Boy, qui fait qui est un street arter et qui, on sait très bien que le street art est un art qui est éphémère, et là en fait finalement le fait de numériser ses œuvres et potentiellement de les vendre par rapport à cette œuvre d'art qui est éphémère et donc qui va être détruite, et ça permet à la fois d'en vivre mais surtout de maintenir dans le temps une expression artistique importante.
Donc c'est effectivement intéressant sur le changement peut-être de business model à venir effectivement, et pour les artistes bien, effectivement ils n'auront plus la même manière de vendre leurs œuvres. Quand on pense aux grands peintres qui voilà étaient obligés presque de vendre une œuvre pour manger, là on va changer finalement, on va avoir un peu des peut-être certains, en tout cas ceux qui vont réussir, vont peut-être devenir des rentiers.
Peut-être, effectivement. En tout cas, on voit émerger certains artistes. Hein. J'ai parlé de Beeple, mais Trevor Jones, etc., qui est un artiste écossais, qui, effectivement, vivent largement de leur art et surtout profitent des nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des siècles, l'art s'est toujours servi de nouvelles technologies, hein, à la fois que ce soit sur le dessin, la peinture, et puis, effectivement, dans l'art moderne ou l'art contemporain. Eh bien là, on passe encore une marche supplémentaire avec cette nouvelle manière de faire de l'art, et surtout par rapport à des artistes parfois qui existaient. Je parlais du street art, mais c'est souvent effectivement des artistes alternatifs qui parfois avaient du mal à vivre avec leur production.
Intéressant effectivement l'évolution technologique. Alors forcément, comme vous suivez aussi les marchés dits entre guillemets classiques, maintenant on va parler de marchés classiques en parlant des actions et des obligations, il y a forcément cette question dans une période où les taux sont tellement bas. On a vu les marchés américains au plus haut, on a vu cette flambée sur le Bitcoin, mais aussi sur d'autres monnaies effectivement crypto actifs, donc on se pose la question de se dire, est-ce que c'est pas là finalement sont allés ceux qui se sont un petit peu perdus en disant bah, de toute façon on cherche du rendement, donc allez on va prendre un peu plus de risques en allant sur ce type d'actifs qui sont très volatiles.
Bien sûr, ça fait partie effectivement de ce qui est en train de se passer actuellement sur des bulles d'actifs qui se mettent en place. Lorsque vous avez des taux d'intérêt tellement bas et en plus que vous avez une croissance économique qui redémarre, une inflation qui repart, vous avez ce qu'on appelle des taux réels, c'est-à-dire des taux corrigés de l'inflation qui sont négatifs et qui amènent de manière quasiment automatique des bulles d'actifs. Le tout, c'est qu'elles ne soient pas systémiques comme on peut l'avoir notamment sur l'immobilier, comme on a eu en 2008 sur l'immobilier, ou comme potentiellement on peut surveiller actuellement l'immobilier américain ou l'immobilier chinois. Donc évidemment qu'il y a eu, il y a beaucoup de spéculation. Je dirais qu'en plus, la pandémie et surtout les fermetures des économies et les confinements ont amené beaucoup de nouveaux acteurs. On le voit en bourse, notamment quand on regarde les chiffres aux États-Unis, des nouveaux entrants et ces nouveaux acheteurs sur les marchés financiers sont importants. Ils sont beaucoup plus jeunes et évidemment, ces acteurs vont aussi sur des, on va dire, des actifs, en tout cas des activités qui étaient d'une certaine manière, ce que l'on dit, disruptifs, en tout cas novatrices, et vont aller sur ces marchés-là. Et ça reste un marché de connaisseurs. C'est vrai qu'on retrouve plus des 20-30 ans que des 50-60 ans sur ces marchés-là, parce que c'est aussi un marché d'une certaine manière amusant. Je rappelle que le NFT, au départ, c'était aussi acquis dans les jeux vidéo. Hein. On s'échangeait des armes, on s'échangeait, effectivement, on gagnait des récompenses, etc., qui étaient d'une certaine manière sous forme de NFT, hein, puisque vous en aviez la propriété à l'intérieur des jeux virtuels. Donc, on est à la limite, pour l'instant, à la fois des marchés financiers, on va dire, et du jeu. Donc, encore une fois, c'est quelque chose de naissant. J'invite effectivement ceux qui nous regardent à aller sur des plateformes ou des sites comme OpenSea. Vous verrez des choses qui paraissent très incroyables par rapport à des échanges qui peuvent se faire sur l'NFT. Hein. Les CryptoPunks, par exemple, qui sont, on va dire, le départ des NFT dans le crypto-art, où en fait c'est des personnages pixelisés qui ressemblent à des punks et qui s'échangent régulièrement. Et je crois qu'il y a eu une vente aux enchères il n'y a pas si longtemps où certains crypto-punks qui étaient soi-disant très rares se sont échangés à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc il y a une frénésie, on ne sait pas là où ça va aller, mais par contre ce que l'on sait, c'est que d'une certaine manière c'est lié aux crypto-monnaies, et d'une certaine manière c'est aussi une révolution qu'il faut prendre en compte, parce que ce marché devient de plus en plus important. Les crypto-monnaies, on le sait, mais ce marché de l'art devient aussi important, et donc on ne peut plus faire comme si ce marché n'existait pas.
Oui, il faut éviter de ne voir que le côté bulle et pas le reste, effectivement, sur la partie technologie. Merci beaucoup, Alexandre Hezez, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup.